necesito hablar con el juez, el que lleva este caso.
Usted dice que quiere sepultarla.
¿Es familiar?
No.
Bueno, déjele su teléfono a la secretaria.
Voy a venir el próximo lunes. Y si no ocurre nada, voy a venir el próximo. El próximo.
Señora, voy a borrarle su tiempo y el mío. No hay nada que hacer.
Siempre hay una salida.
Esther Saint-Dizier, bonjour et merci de nous recevoir en ces journées qui sont toujours celles peut-être les plus agitées, celles qui précèdent de quelques jours seulement le festival Le Cine Latino de Toulouse qui est né à sa 27e édition. Est-ce comme ça le tourbillon ou est-ce que déjà ça commence à être un peu le calme après un tourbillon qui serait avant ?
Je dirais que c'est plutôt le calme, en fait, 15 jours avant les rencontres. Une fois que le programme est bouclé, on a fait l'essentiel de notre travail. Donc il y a comme une accalmie avant le début du festival, où ça recommence à être agité et très intense. Mais c'est vrai qu'on a quelques jours d'accalmie avant.
Donc c'est le calme avant la tempête, là. Alors, c'est la 27e édition, et pour que ceux qui nous écoutent aient un peu une idée, une perception de ce que peut être la tempête qui viendra et l'agitation qu'il y a eu avant cette petite accalmie, cette année, combien de films ?
Près de 200 films au total, entre les longs métrages de fiction, les documentaires, les courts métrages. Donc beaucoup, beaucoup de films, bien sûr, ce qui demande pour chacun un travail spécifique, ce qui veut dire que c'est des contacts multipliés pour chacun des films, en fait. D'une part, il faut les voir. Ensuite, il faut avoir l'autorisation de projection. Ensuite, il faut la copie. Donc ça veut dire pour chacun des films, qu'ils soient courts-métrages, documentaires ou longs de fiction, un travail spécifique sur chacun d'eux.
Et alors, il faut avoir beaucoup d'envie, beaucoup de passion pour le cinéma en général, beaucoup de passion en particulier pour le cinéma d'Amérique latine, pour se décider à se lancer dans une aventure comme celle-ci. Comment ça en est venu ? Il y a un président de l'association qui est Francis Saint-Dizier, votre compagnon. Il y a toute une équipe qui est là depuis très longtemps, mais tout le monde s'accorde à dire que c'est vous, l'âme, la créatrice, celle qui porte ce projet, celle qui a lancé la première étincelle. Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, on se dispose à être tous les ans à renouveler cette machine que vous venez de décrire, de 200 films à voir, à contacter, à gérer, etc.
C'est une aventure qui a commencé en 89, comme un petit festival qui durait simplement un petit week-end. C'était au Mirail, dans un quartier périphérique. Et ce festival a grandi d'année en année. On est venu au centre-ville au bout de la 3e édition. Et c'est là que le festival a commencé à prendre vraiment son envol et qu'il n'a cessé de se développer depuis. Donc on en est à la 27e édition. La première édition, on avait 1500 spectateurs sur un petit week-end, donc en périphérie. On en est aujourd'hui à 53 000 participants et j'espère que ça va continuer à grandir encore dans les années qui viennent.
Alors, vous venez d'évoquer les débuts 1989 et 27 éditions plus tard, il y a une réalité nouvelle, pas seulement dans le festival qui a grandi comme vous venez de l'expliquer, mais dans le cinéma latino-américain lui-même. Et on a l'impression que vous avez accompagné une partie de l'histoire du cinéma latino-américain qui est assez importante. Dans quelques pays, ça a changé du tout au tout. Je pense notamment à un cas que je connais bien, que le Chili, qui justement en 89 commençait à sortir de la dictature et commençait, entre autres, à voir un cinéma nouveau qui s'est développé beaucoup. Est-ce que vous avez l'impression, au fil du temps, d'avoir contribué à construire un peu de ce qui est le cinéma latino-américain d'aujourd'hui ?
Oui, je peux dire qu'on a accompagné ce mouvement, qu'on n'est pas pour rien dans ses résonances internationales, en tout cas, sa distribution en France, sa diffusion. Mais c'est vrai qu'on a vécu un temps de mutations très importantes. En Amérique latine, à la faveur de l'avènement des régimes démocratiques qui ont succédé à ces terribles dictatures qu'on a connues donc, en Argentine, au Chili, en Amérique centrale et ailleurs. Et ces régimes démocratiques ont commencé quand même à s'intéresser de plus près à la culture. Et qui dit culture dit aussi cinéma, intègre le cinéma. Et pratiquement tous les pays aujourd'hui qui ont une production cinématographique et audiovisuelle se sont dotés de lois de cinéma pour soutenir leur cinématographie nationale et ont donné donc des appuis importants aux réalisateurs. Des écoles de cinéma se sont créées aussi dans beaucoup de pays, ce qui a favorisé aussi l'émergence de nouveaux réalisateurs. Et par ailleurs, il y a cette révolution technologique, donc avec le digital, qui a beaucoup facilité l'accès à la réalisation pour de tout jeunes réalisateurs qui sortaient de ces écoles. Donc tous ces éléments ont fait que la production cinématographique a explosé, on pourrait dire, en Amérique latine, qu'elle est aujourd'hui importante, qu'elle est encore exponentielle. On en a de plus en plus de films, on en reçoit de plus en plus. Et plus il y a de films, plus il y a de chances qu'il y ait de vrais talents.
Otto, tu t'es puesto a pensar qué hubiera pasado si el monstruo ese explotaba?
Lo he pensado a veces, sí. Por lo de Chernobyl. Pero para eso tenían que haberla terminado. Por eso lo que hago es pensar mucho en la rubia que iba a venir, o en otra que iba a venir para acá.
Yo sé que tú, no antes, ahora tú estás dispuesto a reventar con tal de morirte rodeado de rubias.
No jodas, si los que tengo al lado son dos negros que ni siquiera son deportistas.
Sí, pero dime, ¿te molesta la mierda esa ahí o no?
Pour revenir au festival lui-même, vous disiez l'histoire du festival qui commence dans une petite salle au Mirail avec en tout et pour tout 1500 spectateurs la première année, aujourd'hui 55 000. J'ai l'impression, pour avoir vécu quelques-unes des dernières éditions, que en plus il est devenu un événement qui va bien au-delà du festival de cinéma. C'est devenu une sorte de petite semaine ou grande semaine, parce que c'est une dizaine de jours, de la culture latino-américaine à Toulouse. Le festival lui-même prévoit un certain nombre d'activités, qu'elles soient musicales, quelques expositions de photos, etc., des activités qui sont là et qui deviennent de plus en plus importantes, qui donnent une dimension nouvelle. Est-ce que c'est venu tout seul? C'était dans votre propos initial d'arriver à cela, ou c'est la vie du festival qui a fait ça?
Déjà dans nos statuts qui définissent ces rencontres donc de cinéma d'Amérique latine, on avançait l'objectif donc de mieux faire connaître les pays d'Amérique latine, leur culture et leur peuple. Donc je crois que ça permettait un large spectre d'activités et que bien sûr autour du cinéma lui-même, qui est l'ossature centrale du festival, se sont greffés tout un tas d'activités. Alors c'est vrai que difficile de parler de l'Amérique latine sans parler de musique, par exemple. Ça fait partie de la fête latino-américaine. Donc il y a toujours eu des concerts, des apéro-concerts, une grande fête donc avec des groupes latino-américains. Mais au-delà de la musique, il y a aussi des expositions de photos, des expositions de peinture, des activités pour le tout jeune public, des activités pour les scolaires, des décentralisations régionales, donc s'intéresser aussi à toute la région. Voilà, je crois qu'on a essayé de faire le maximum d'activités autour de l'Amérique latine et qui puissent faire connaître tout ce monde culturel qui est très riche en vérité dans tous les pays latino-américains.
Mariquita.
Y además me tengo que ir a trabajar, hombre.
Entonces, para los burros.
Pues ni modo, mano. Ahí nos estamos licenciando.
Mira qué delicado. Párate.
¿Sabes a quién vi?
No a quién. Al Jaibo.
¿Al Jaibo?
Sí, se escapó de la escuela correccional.
Oye, ¿quién es el Jaibo?
Vous venez de parler des jeunes, vous venez de parler des écoles où vous allez travailler. J'imagine que cette année, cette activité va être particulièrement pertinente, si j'ose dire, ou à un relief particulier, étant donné que vous avez décidé de prendre comme sujet cette année ce qu'on appelle l'âge des possibles. C'est quoi l'âge des possibles? Pourquoi avoir choisi cette période pour le mettre au cœur du 27e ciné latino?
Oui, l'âge des possibles, donc l'adolescence, bien sûr, par définition, et bien simplement parce que c'est une période de la vie des humains qui cristallise, je crois, beaucoup les malaises, les désarrois, les mutations qui sont en cours dans nos sociétés, surtout quand elles sont en crise, et que c'est un bon reflet, je crois, de l'état de nos sociétés, de ses valeurs. C'est pas un hasard si le cinéma s'intéresse de plus en plus à cette période, à cet âge des possibles, non seulement en Amérique latine, mais partout dans le monde. Et on a constaté, on est parti d'un constat qui était une évidence l'an dernier, c'est que sur 14 films en compétition, 6 de ces films abordaient la thématique de l'adolescence. Et donc il nous a paru intéressant de faire une muestra qui reprenait non seulement les films récents qu'on a pu montrer, mais de revenir un peu en arrière jusqu'aux années 50, puisque je crois que le premier film emblématique qui aborde cette question de l'adolescence ou de la préadolescence, en tout cas d'une adolescence prématurée, c'est Los Olvidados de Luis Buñuel, donc qui débute cette période.
Est-ce que cette fenêtre qui est proposée cette année révèle ce fameux paradoxe avec l'Amérique latine que les gens ont souvent en France, entre autres? Ils parlent de l'Amérique latine comme si c'était une sorte d'unité, comme si tous les pays d'Amérique latine avaient, au-delà de la langue et de quelques autres traits communs historiques qui sont évidents, c'était des sociétés semblables. Est-ce que la sélection des films que vous avez fait, aussi bien dans le temps que dans les différents pays, montre quelque chose de très uniforme ou plutôt quelque chose de très divers dans une certaine identité commune ?
Je crois que c'est des choses un peu universelles et qu'on peut voir chez nous aussi. On y retrouve des thématiques qui sont les mêmes, la quête de soi, l'éveil sexuel, le désarroi, le passage à l'acte, le goût du risque. Tout ça, c'est des problèmes qu'on retrouve à la fois dans les films sur l'adolescence en France ou en Europe et en Amérique latine. Après, il y a quelques spécificités pour chaque pays et je crois que la langue parlée par les adolescents, avec tous ses particularismes, avec toute sa brutalité quelquefois, est une différence qu'on retrouve par pays, chacun ayant sa langue et son vocabulaire qui fonctionne un peu comme des codes entre eux.
Il est évident qu'on ne va pas faire, surtout dans une interview, parler la liste qui serait ennuyeuse des films qui sont là. Mais est-ce que je peux me permettre de vous demander si vous avez deux ou trois coups de cœur que vous diriez aux spectateurs, à ceux qui nous écoutent, voilà des films à ne surtout pas rater? Ou est-ce que la personne qui cherche à être équanime que vous êtes préfère s'abstenir d'un tel conseil?
C'est une sélection qu'on propose, donc ça veut dire que c'est des films qu'on a sélectionnés parce qu'on les aimait, parce qu'ils sont représentatifs de cette thématique. À partir de là, on les aime tous.
Très bien, je vois que la diplomate est là. Je voulais revenir à la partie plus professionnelle, parce que la partie plus professionnelle est celle où le festival a apporté au cinéma latino-américain, au-delà du fait de faire une belle vitrine, la possibilité de rassembler des gens qui ont permis à certains films devenus importants dans l'histoire du cinéma latino-américain récent d'exister tout simplement. C'est le fameux cinéma en construction, une manifestation avec laquelle vous vous êtes en plus lié professionnellement et culturellement, je dirais, avec les plus grands festivals au monde. Est-ce que vous êtes particulièrement fier, je dirais, de cet aspect-là du travail que vous menez depuis 27 ans?
Oui, satisfaite en tout cas, parce que c'est une opération qui a donné des résultats dès son début, dès sa première édition. Donc c'était en 2002, la première édition de Cinéma en construction. C'est un dispositif qui répond là aussi aux objectifs qu'on s'était fixés dans nos statuts, qui est d'aider les cinémas d'Amérique latine donc, à exister et à être mieux diffusés et distribués en France. Donc on est dans la logique absolue des objectifs qu'on s'est fixé, et c'est tout naturellement bien sûr que quand les latino-américains nous ont interpellés pour avoir une aide, parce que c'est vrai que les nouvelles technologies, le digital en particulier, donc favoriser le tournage des films, c'était beaucoup plus facile et beaucoup moins cher de tourner un film. Par contre, tout le processus de post-production de ce film était un processus qui était encore cher et qui reste encore coûteux. Et les réalisateurs et producteurs, les jeunes réalisateurs surtout et les jeunes producteurs, ont commencé à s'adresser à nous au début des années 2000 parce qu'ils avaient du mal à terminer leur film. Et c'est de là qu'est né ce dispositif donc, qu'on a créé de Cinéma en construction, qui concerne donc des films déjà tournés, mais en panne financière, surtout à l'étape de la post-production. Et on a imaginé donc d'inviter, de sélectionner des projets et de présenter ces projets à des professionnels capables d'intervenir justement pour aider à la finalisation de ces films. Il se trouve que les professionnels français puis européens ont répondu présents à cette initiative. Ils étaient très contents de pouvoir voir des films encore pas fini et de pouvoir les aider. Ces professionnels, c'était à la fois des producteurs, bien sûr, mais aussi des distributeurs, des sélectionneurs de festivals, des fonds de soutien, tout un panel très large de professionnels qui avaient l'avantage donc de pouvoir découvrir des films et des jeunes auteurs de façon anticipée par rapport au public. Et ça a permis donc que ces films souvent soient aidés, bien sûr soient finis, puisque sur 144 films, il y a les 99,8% à peu près qui ont été terminés. Très nombreux ont été ceux qui sont passés, qui ont eu un parcours de festival assez extraordinaire. 22 de ces films ont été sélectionnés dans le cadre du Festival de Cannes, et je ne compte pas ceux qui ont été sélectionnés dans les autres grands festivals, Sundance, de Rotterdam, de Berlin, de Locarno, de Venise, et bien sûr de Saint-Sébastien, donc des festivals pour la plupart classe A, qui est le maximum de la classification des festivals. Et voilà, donc je crois que c'est des résultats dont nous sommes très contents, mais c'est d'abord le talent et la créativité des réalisateurs latino-américains qui a permis que ça se passe ainsi. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons fait découvrir souvent des auteurs avec un premier film, ils étaient parfaitement inconnus, et puis aujourd'hui, on les retrouve dans les sélections de ces grands festivals, et souvent, ils n'ont plus besoin de nous, mais on continue à découvrir d'autres nouveaux réalisateurs qui arrivent avec leur premier film. Et Cinéma en construction, je crois, a encore de beaux jours devant elle.
Et grâce à Cinéma en construction et au Festival Ciné Latino, c'est le cinéma latino-américain qui, en général, a de beaux jours devant lui. Vous avez raison de dire qu'un festival comme ça fonctionne parce qu'il y a des talents qui font du bon cinéma, mais sans aucun doute, comme on sait, les talents, surtout dans le domaine de la culture, ne peuvent pas aller très loin s'il n'y a pas des gens avec l'engagement qui est celui de l'équipe à la tête duquel vous avez été longtemps, qui donne, crée un espace, une tribune pour l'expression, et ça, je tiens à le dire, l'un ne va pas sans l'autre.
Oui. Non, je crois simplement qu'il y a besoin, il y a besoin toujours de passerelles, de ponts, et qu'on sert de relais, on est des passeurs, donc pour que ça communique et qu'il y ait une interaction entre les professionnels de part et d'autre du charco, de cet océan qui nous sépare.
Merci beaucoup Esther, rendez-vous donc au 27e rencontre de Toulouse de Ciné Latino du 19 au 29 mars, et Feliz Festival.
Eh ben, on va voir, oui, j'espère que oui.
C'était Matvika Kovac. Com que idade que isso é normal? Com 30? Com 40? Ou com 25?